Cher ami internaute, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur notre site. Les pièces grégoriennes de cette semaine et leurs commentaires que vous allez écouter vous sont bien volontiers offerts gracieusement pour que soit diffusée la prière chantée de l'Église. Sachez toutefois que notre association qui défend cette louange divine doit faire face à d'inévitables frais de fonctionnement. Vous pouvez donc nous aider par des dons déductibles d'impôts ou bien offrir vos services bénévolement. Ce site vous offre diverses possibilités de nous contacter ainsi que de vous abonner à notre revue et cotiser en ligne. Merci d'avance pour votre aide. Après la fête de la Très Sainte Trinité et celle du Saint-Sacrement, ce dimanche est occupé pour la troisième semaine consécutive par une solennité. Il s'agit encore d'une fête consacrée non à commémorer un événement, mais à méditer sur un des grands mystères de notre foi. La fête du Sacré-Cœur célèbre l'amour même de notre Seigneur. Elle est, dit saint Jean Eudes, la fête des fêtes, le principe de tous les mystères qui sont contenus dans les autres fêtes et la source de tout ce qu'il y a de grand, de saint et de vénérable dans les autres fêtes. Le culte du Sacré-Cœur est ancien, mais il fut précisé et répandu surtout à partir du 27 décembre 1673, première apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. La dévotion au Sacré-Cœur s'est beaucoup propagée au XIXe siècle, quand elle est étendue à l'Église universelle, et que les évêques de France, après le désastre de 1870, firent le vœu d'élever la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. La fête a été fixée par notre Seigneur lui-même, lors de l'apparition à Sainte Marguerite Marie, au vendredi qui suit l'octave du Saint-Sacrement, en souvenir du Vendredi Saint. L'amour immense de Jésus pour nous l'a porté à se livrer à la mort pour nos âmes. Souffrir et mourir pour ceux qu'on aime, c'est, au témoignage même de notre Sauveur, la plus grande preuve de l'amour. La solennité de la fête, généralement effectuée le dimanche suivant, n'est pas obligatoire. Elle est le plus souvent pratiquée et nous n'écouterons les chants du troisième dimanche après la Pentecôte que la semaine prochaine pour consacrer cette présente émission essentiellement à ce Sacré-Cœur qui a tant aimé les hommes. Cette dévotion se développa après les apparitions de Paray-le-Monial. Le pape Clément XIII approuva le siècle suivant, en 1765, un office et une messe propres et en permit la célébration dans quelques diocèses. Pie IX la rendit obligatoire dans l'Église universelle en 1856. Léon XIII prescrivit la consécration annuelle du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Saint Pie X ordonna aux prêtres d'ajouter à la suite des prières après la messe l'invocation trois fois répétée « Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous ». Enfin, Pie XI, en 1929, a remplacé l'ancien office de 1765 par un nouveau que nous allons entendre maintenant. Il évoque moins la passion du Sauveur et plus la miséricorde du divin cœur de Jésus. Cogitationes cordis eius in generatione et generationem. Les pensées de son cœur demeurent d'âge en âge, ut eruat a morte animas eorum et alat eos infame. Ainsi il arrache leurs âmes à la mort et les nourrit pendant la famine. Ces deux versets du texte de l'introïte ne se suivent pas dans le psaume 32, mais s'adaptent bien ainsi au divin cœur. La mélodie nous ramène curieusement en plein carême. La moitié de la première phrase est empruntée à l'introïte « Domine refugium » du mardi de la première semaine de carême. L'intonation est exactement celle du graduel « Tribulationes cordis mei » du deuxième dimanche de carême, dont le texte est tiré du psaume 24, comme celui du graduel de cette messe. Le reste de l'introïte emprunte surtout ses formules à l'introïte « Les tarés » du quatrième dimanche de carême, dont nous retrouvons ici le caractère joyeux et très affirmatif avec une nuance de douceur à la fin. Bien entendu, le verset de cette introïte et le début du psaume 32, Exultate justi in domino, juste, exulté pour le Seigneur, rectos decet collaudatio, la louange convient à ceux qui ont le cœur droit. Je vais vous faire écouter cette année une interprétation historique s'il en est, puisque nous sommes au Québec en 1948, à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. J'aurai l'occasion au cours de l'émission de vous donner des informations sur cette abbaye bénédictine et sur celui qui anima ce renouveau grégorien, Don Georges Mercure. Le disque qui a paru en 2011 au Canada ne semble plus disponible, ou bien à des prix indécemment élevés. C'est bien regrettable. Un copieux livret de présentation de 30 pages nous brosse un tableau historique fort intéressant. Je vais en extraire quelques passages au fur et à mesure que vont se succéder les pièces du propre de cette messe. L'abbaye de Saint-Vendry, fondée en 1894 par celle de Ligugé, elle-même filière de Solesmes, dut évacuer ses moines en Belgique lors des expulsions de 1901. L'un d'eux, Don Paul Vanier, arriva au Canada en 1912, sur les bords du lac Manfrémagog, au sud de Sherbrooke, près de la frontière avec les États-Unis, et acquit une propriété. C'était le début de Saint-Benoît-du-Lac. En 1914, le fondateur disparaissait tragiquement, noyé dans le lac, et la Grande Guerre coupa toute communication avec l'abbaye mère. Mais les moines maintinrent la vie, certes précaire, de la fondation. Un jeune homme de 18 ans se présenta au monastère en janvier 1924 pour y commencer sa vie monastique. Il se nommait Georges Mercure. Originaire de Drummondville, ville toute proche, né en 1905, il était déjà musicien avant son entrée au monastère. La communauté naissante n'ayant pas toutes les ressources nécessaires pour la formation de ces jeunes recrues, elle devait à cette époque compter sur l'abbaye de Saint-Vendry pour le cursus des études philosophiques et théologiques. Quand le frère Mercure arrive sur le vieux continent, en août 1926, la communauté de Saint-Vendry est de retour en France depuis près de 2 ans. Ordonné prêtre en juillet, il s'est inscrit à la Schola Cantorum de Paris pour l'année académique de 1932-1933. L'événement décisif fut, selon lui, une session de chant grégorien donnée à l'abbaye Sainte-Marie de Paris par Don Gajard, maître de chœur de Solesmes et disciple de Don Mocro. Don Mercure devint alors un adepte inconditionnel de la méthode et du style de Solesmes. Le texte du graduel de cette fête est emprunté au psaume 24 qui est un des principaux psaumes de l'Avent et du Carême. C'est la prière du pécheur qui se repent. Au milieu de sa prière, il s'interrompt pour contempler cette bonté infinie du Seigneur qui se manifeste à ceux qui reviennent vers lui. Dulcis et rectus dominus. Le Seigneur est doux et juste. Propter hoc legem dabit delinquentibus in via. C'est pourquoi il donne aux pécheurs égarés une règle de conduite. Il fait marcher les humbles dans la droiture. Aux malheureux, il enseigne sa voie. Ce texte, on le voit, est plein de douceur. Cette douceur qui est une des qualités du cœur de Jésus, il va nous le dire lui-même dans l'Alléluia. La mélodie est celle du graduel Etchequam Bonum du 22e dimanche après la Pentecôte, qui chante la douceur de se retrouver ensemble, comme des frères dans le temple, avec de grandes courbes gracieuses et très expressives. Elle est très étendue dans la deuxième partie, s'élevant dans l'aigu jusqu'aux extrémités du mode, puis redescendant dans les profondeurs du grave pour une cadence solennelle. Restons avec Don Georges Mercure à la tête de ces chantres bénédictins québécois que l'on a plaisir à écouter dans ces quatre disques. Ces enregistrements couvrent la totalité des productions captées par le chœur de Saint-Benoît-du-Lac au cours des années 1935 à 1948. Presque toutes ces réalisations furent éditées vers les années 1960 sur micro-sillon. Doit-on ajouter qu'il s'agit de documents exceptionnels? L'interprétation approche, comme vous l'avez constaté, la perfection. On a vite oublié l'état de l'enregistrement, le souffle, le son un peu creux, caractéristique de ces repiquages de 78 tours. Précisons enfin que le premier CD, incluent un livret de 160 pages que les internautes peuvent imprimer au format PDF. Il s'agit de l'ensemble de la méthode et sa lecture en est passionnante, tant transparaît le sens pédagogique qui animait Don Mercure. Les 23 pages de ce premier disque restituent des extraits de ses cours. C'est émouvant. Nous sommes en 1936. Ses élèves moines découvrent manifestement la prière chantée. C'est ce que l'on ressent dans les répétitions. Le maître de chœur les tense. « Vous êtes parti trop tard. »« Bien trop lourd. » »« Le mi est faux en raison de la paresse de vos voix, etc. » Les enregistrements des autres disques, tous postérieurs, montrent combien ils ont progressé. Tout amateur de chant grégorien se doit de posséder ce coffret historique. Une merveille. Le texte de l'Alléluia, Tolité, de la fête du Sacré-Cœur, est emprunté à l'Évangile selon saint Matthieu. Ce sont les paroles que notre Seigneur adresse à ses disciples et à travers eux à tous les hommes pour les inviter à se soumettre à sa loi. Tolité iugum meum super vos, et dicite a me quia mitis sum et humilis corde. Prenez sur vous mon joug et suivez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ces paroles célèbres nous rappellent les qualités du cœur de Jésus que nous fêtons aujourd'hui et que nous devons imiter. La mélodie de cet Alléluia est originale, tout au moins n'a-t-elle pas d'équivalent dans le répertoire actuel. Elle est ample et très développée, surtout dans le verset où son étendue dépasse l'octave. Vous êtes, cher ami internaute, sur le site Dona Voce France, à l'écoute de l'émission Chant grégorien, prière chantée, présentée chaque semaine, dès le lundi précédant le dimanche. N'hésitez pas, une fois l'écoute achevée, à visiter notre site. Je vous remercie de votre fidélité, de votre aide dont nous avons besoin pour continuer à diffuser ce chant officiel de l'Église catholique romaine, pour qu'il revienne, comme il le doit, dans toutes les messes. Poursuivons notre voyage dans le temps. Nous sommes dans les années 1930 et dans l'espace, entre la France et la belle province outre-Atlantique. Nous ne nous étendrons pas sur les divergences entre l'abbaye de Saint-Vendry et Dom Potier d'une part, et Solesmes et Dom Ocro d'autre part. Force est d'admettre qu'elles furent sérieuses. Deux écoles se formèrent, ayant chacune sa revue. La revue du chant grégorien et la revue grégorienne. Ces institutions, la Schola Cantorum et l'Institut grégorien. À Saint-Benoît-du-Lac, comme les fondateurs étaient des moines de Saint-Vendry, on chantait à la Dom Potier. Mais Dom Mercure adopte, en France, comme je l'ai dit, la méthode de Solesmes, sans doute après un séjour en l'abbaye sartoise. Il rentra définitivement à Saint-Benoît-du-Lac en juillet 1933, et Dom Léonce Crenier, le prieur de l'époque, le nomma sans tarder maître de chœur le 19 août de la même année, avec la mission de faire chanter les moines à la Solesmes. En 1935, le père Mercure projeta de mettre sur disque, ce qui était tout à fait novateur pour l'époque, un cours de chant grégorien illustré par des exemples. Ce document sonore irait de pair avec une méthode destinée au cours secondaire, la rythmique grégorienne. Imprimé sur les presses de l'Action catholique, à Québec, en 1937, elle fut revue et corrigée en 1944, puis rééditée en 1952. L'offertoire de la fête du Sacré-Cœur reprend celui de la messe du Dimanche des Rameaux, qui commémorait la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la plus grande preuve d'amour qu'il ait donnée aux hommes. Dans le texte qui figure au missel, l'offertoire du Dimanche des Rameaux est amputé de ces deux dernières phrases. Les commentateurs de cette pièce sont unanimes pour regretter l'absence de ce verset 22 du psaume 68. « Pour nourriture, ils m'ont donné du fiel, et pour étancher ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Il semble manifeste qu'on a voulu, en 1929, occulter un peu la souffrance de la passion pour insister sur ce cœur divin qui est, selon une expression chère à sainte Marguerite Marie, tout aimant et tout aimable. Mais ce qui reste du grand psaume prophétique de la passion exprime déjà beaucoup de cette douleur. « Improperium expectavit cor meum in miseriam. Mon cœur s'est attendu à l'outrage et au malheur. Et sustinui qui simul contristaretur et non fuit. J'ai espéré quelqu'un qui s'attristât avec moi, mais il n'y a eu personne. Consolantem meque sivi et non inveni. J'ai cherché un consolateur et je n'en ai pas trouvé. » Tous les mots sont soulignés par des neumes longs et lourds. De nombreuses cadences en demi-ton sonnent douloureusement. D'après Dom Baron, ce chef-d'œuvre qui est cet offertoire de la messe du Dimanche des Rameaux garde ici toute sa beauté. La renommée du monastère Saint-Benoît-du-Lac s'étendit rapidement et il devint jusque vers le milieu des années 1960 un haut lieu de formation pour les chantres et maîtres de chapelle du Québec et parfois d'ailleurs. Le père Mercure lui-même, à cette époque, s'absentait souvent pour donner des cours et des conférences à l'extérieur du monastère. Les enregistrements de disques se poursuivirent. En 1944 parut la Messe des défunts et en 1947 la Messe de l'Immaculée Conception, que nous écoutons maintenant, ainsi que les Cantus Mariales. Vint ensuite la Messe du Sacré-Cœur et en juillet 1948 eut lieu l'enregistrement de la Messe du Saint-Sacrement, qui ne fut jamais éditée. Elle doit sa première publication à ce coffret de 4 CD dont je vous entretiens présentement. L'antienne de communion de la fête du Sacré-Cœur est très courte et ressemble plus à une antienne de l'office qu'à un chant du propre de la messe. Le texte est tiré de l'évangile du jour dans le récit de la Passion selon saint Jean. « Unus militum lancia latus eius aperuit. L'un des soldats lui ouvrit le côté d'un coup de lance. Et continuo exhibit sanguis et aqua. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » L'Église voit dans l'eau et le sang coulant du cœur de Jésus transpercé par la lance, la figure du baptême et de l'Eucharistie qui répandent sur nous les grâces acquises par son sacrifice. La mélodie de cette petite antienne est simple et légère, soulignant bien les articulations du texte. Notons par curiosité que l'original se trouve au 5 juin pour la fête de Saint Boniface. Chers auditeurs, nous achevons notre émission, mais restez à l'écoute car nous avons quelques informations à vous communiquer. Vous savez sans doute que nous éditons chaque semaine, sur notre site unavoce.fr, une émission quelque peu différente de celle que vous venez d'écouter. Elle est très suivie, de par le monde. De nombreux témoignages nous le confirment. Nous nous réjouissons que la louange divine chantée puisse ainsi être amplement promue. À telle enseigne que l'on nous a proposé de traduire les textes présents sur le site, faute de pouvoir pour l'heure avoir des commentaires oraux en d'autres langues. C'est la langue portugaise qui ouvre la voie grâce à de zélés fidèles catholiques lusitaniens, et nous leur en savons gré. Allez sur l'entrée messe de notre page d'accueil et vous pourrez avoir un aperçu de ce beau travail. Nous attendons bien sûr d'autres propositions de locuteurs d'autres langues. Contactez-nous. Vous remarquerez par la même occasion que nous avons mis en ligne la messe des défunts qui nous a souvent été demandée. La messe de mariage devrait suivre très bientôt. Voici des initiatives qui montrent, si besoin en est, que notre association fait toujours preuve de dynamisme, qu'elle a un rôle à jouer dans cette période difficile que connaît l'Église et que les motifs d'espérer sont nombreux. Et nous avons la faiblesse de penser que dans l'effondrement, tant moral qu'économique, de la société, il devient plus que jamais nécessaire de redonner la verticalité que ce monde a trop souvent perdue. La louange divine exprimée dans cette musique inégalée qu'est le chant grégorien en fait partie. Cette tâche de sauvegarde du chant grégorien et de la musique sacrée dans la liturgie catholique nécessite des ressources humaines importantes. Notre équipe de bénévoles dévoués est composée de jeunes, souvent absorbés par leurs tâches familiales et professionnelles. Les moins jeunes disposent de davantage de temps, mais s'épuiseront vite si vous ne venez les renforcer. N'hésitez pas à proposer vos services. Notre trésorier n'a toujours pas trouvé l'aide comptable qui contribuerait à soulager ses nombreuses tâches. Quant à notre revue, nos émissions radiophoniques, nos réunions, Elles entraînent des frais très lourds. C'est l'abonnement à notre revue paraissant tous les 2 mois qui contribue en partie à les couvrir. Elle est en outre considérée comme la seule publication de ce genre, à tout le moins dans le monde francophone, et sans doute au-delà. Aidez-nous à transmettre. Contactez-nous par notre site web, unavoce.fr, ou par téléphone au 01 42 93 40 18. Laissez un message et votre téléphone en cas d'absence. Nous prendrons contact avec vous dès que possible. Voici notre adresse postale à laquelle il convient d'écrire si vous désirez des compléments d'information ou autres. Unavoce, 34 rue du Hameau, 75015, Paris. J'espère de tout cœur vous retrouver, si Dieu le veut, la semaine prochaine, pour poursuivre le déroulement de l'année liturgique à travers cette prière chantée de l'Église qu'est ce beau chant grégorien. Bonne semaine et au revoir.